Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 28 décembre 2022. En RDC, les autorités envisagent un service militaire obligatoire pour faire face à la rébellion du M23. Ethiopian Airlines va reprendre aujourd'hui ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois. En Tunisie, des ONG accusent l'autorité électorale de mettre en péril la liberté d'expression. Ici aux États-Unis, la Cour suprême annonce le maintien d'une mesure permettant d'expulser les migrants à la frontière. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco avec une alerte à la grippe aviaire au Niger. Et les sports, l'attaquant néerlandais d'origine togolaise Cody Gakpo, transféré dans le club anglais de Liverpool. Bonjour, bienvenue, on commence par le journal. En République démocratique du Congo, les autorités ont évoqué mardi la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire pour faire face à l'offensive de la rébellion du M23 dans l'est du pays. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, s'exprimait à l'occasion de la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo devant des responsables politiques et militaires, mais aussi devant des diplomates. Il faut construire une armée pour protéger le pays, a insisté le ministre de la Défense. Toujours en RDC, dans le nord-est du pays, 8 soldats congolais et un civil ont été condamnés à mort en appel par la justice militaire dans 2 jugements distincts en Ituri. Le point avec John Lindon.
Dans une première affaire portant sur le meurtre de 2 ressortissants chinois en mars, la haute cour militaire a condamné lundi 5 militaires, donc 2 colonels et un civil à la peine de mort. Cette sentence, rarement appliquée, est souvent commuée en prison à perpétuité. Comme tous les autres, les colonels Mukalenga Chetenko et Kayumba Soumahili ont été reconnus coupables de meurtre, association des malfaiteurs, indique l'arrêt rendu à Bounia. Ils ont déjà été condamnés à mort en première instance. Dans cette même affaire, 3 autres militaires ont été acquittés, faute de preuves. Dans un autre jugement, la haute juridiction militaire a condamné à la peine capitale pour détournement des munitions de guerre le lieutenant-colonel Marcel Kalinga-Miré et 2 autres militaires. 4 autres soldats et 3 civils condamnés à mort ont vu leur peine réduite à 10 ans de prison. Tous les militaires condamnés à mort dans les 2 affaires ont été radiés de l'armée.
De nouvelles violences intertribales ont fait 56 morts en 4 jours au Soudan du Sud, dans l'état de Jonglei, théâtre d'affrontements depuis des années, a rapporté mardi un responsable local. Des jeunes de la communauté Nouer qui étaient armés ont attaqué le 24 décembre des représentants de la communauté Meul dans les comtés de Gumuruk et Likwangole, a dit Abraham Kelang, représentant gouvernemental dans la zone administrative du Grand Pibor. La MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, qui ne cesse d'alerter sur un regain de violence infranationale, avait mis en garde la semaine dernière contre un possible raid d'éléments armés de la communauté Nouer. La mission a renforcé ses patrouilles dans les zones affectées. Ethiopian Airlines va reprendre aujourd'hui, mercredi, ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois due au conflit meurtrier dans cette région du nord de l'Éthiopie. Le point avec Lionel Gaïma.
Nous sommes sincèrement ravis de la reprise de nos vols vers Mekele, a déclaré Mesfin Tasseu, PDG de la compagnie nationale éthiopienne. Il ajoute que la reprise des vols va permettre aux familles de se retrouver, faciliter le commerce et stimuler les flux touristiques. Cette annonce intervient au lendemain de la visite d'une délégation du gouvernement éthiopien à Mekele, capitale du Tigré. La ville a été raccordée au réseau électrique national le 6 décembre. La CBE, principale banque éthiopienne, a annoncé la reprise des opérations dans certaines villes et les communications téléphoniques ont commencé à être rétablies. Gouvernement et rebelles tigréens ont signé le 2 novembre un accord à Pretoria pour mettre fin à 2 ans de guerre. Le texte prévoit le désarmement des rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré, la réouverture des accès et des communications avec cette région coupée du monde depuis 2021.
La Cour suprême d'Angola a ordonné la saisie préventive d'actifs d'une valeur d'$1 milliard détenus par Isabel Dos Santos, la fille de l'ancien président José Eduardo Santos. Isabel fait face à des accusations de corruption depuis plusieurs années. Elle nie tout acte répréhensible et a estimé lors d'une interview à CNN, portée en novembre, que les tribunaux angolais n'étaient pas indépendants. Le père d'Isabel, José Eduardo Santos, est décédé en Espagne. En juillet dernier, il avait accédé à la présidence angolaise en 1979 à la suite d'Agostinho Neto et quitté ses fonctions il y a 5 ans. En Tunisie, des ONG ont accusé hier l'autorité locale électorale de mettre en péril la liberté d'expression après qu'elle a saisi la justice contre des médias et des comptes sur les réseaux sociaux pour de supposées infractions en lien avec le référendum de juillet dernier. Les détails avec Rosine Monizero.
Dans un communiqué conjoint, 28 ONG ont dénoncé les menaces que fait peser l'instance électorale sur la liberté de l'opinion et d'expression, à tel point qu'elle exerce une censure sur les médias. Ces ONG, dont le Syndicat national des journalistes, l'Association tunisienne pour les droits et les libertés et l'Organisation tunisienne de lutte contre la torture, ont aussi condamné la surveillance et la censure exercée par l'instance supérieure indépendante pour les élections, ou ISI, qui s'est attribué selon elle un rôle de policier veillant sur les opinions et les médias. Le 22 décembre, l'instance pour les élections a déposé 24 plaintes devant le tribunal de première instance de Tunis, contre des médias et des pages Facebook pour injures, atteinte à la dignité des électeurs ou pour diffusion d'intox. Elle leur reproche d'avoir commis ces infractions dans des publications pendant la campagne pour le référendum du 25 juillet qui a été marquée par une abstention massive.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a annoncé mardi le maintien d'une mesure prise pendant la pandémie de COVID-19 permettant d'expulser les migrants à la frontière. La levée de cette politique baptisée Title 42 était contestée par 19 États américains qui craignaient un afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. La mesure restera finalement en place jusqu'à ce que la Cour suprême tranche le fond de ce dossier. Elle entendra en février 2023 les arguments des partis et rendra sa décision au printemps prochain. La Maison-Blanche a appelé à une réforme en profondeur de la politique migratoire américaine après cette décision de la Cour suprême. Toujours aux États-Unis, les appels à la démission se sont multipliés contre un républicain fraîchement élu au Congrès américain et qui a reconnu avoir largement menti sur son CV. Les détails avec Nani Talani.
George Santos a confessé dans 2 interviews distinctes avoir embelli son CV après avoir ravi un siège aux démocrates dans l'État de New York aux élections de novembre. Le futur élu a avoué n'avoir jamais travaillé pour les prestigieuses banques Goldman Sachs ou Citigroup, ni détenir de diplôme universitaire, contrairement à ce qu'il prétendait. Ce fils d'immigré brésilien, né dans le Queens à New York, a catégoriquement balayé l'idée d'abandonner le siège qu'il doit occuper à partir du 3 janvier, déclarant au New York Post ne pas être un criminel. Ses mensonges sur plusieurs points de sa biographie ont été révélés par une enquête du New York Times publiée mi-décembre. Plusieurs membres du Parti démocrate ont appelé le chef de l'opposition républicaine, Kevin McCarthy, à convoquer un vote pour exclure M. Santos si ce dernier ne démissionne pas de lui-même. L'État de New York, souvent favorable aux démocrates, a vu plusieurs sièges à la Chambre des représentants basculer du côté républicain, contribuant à leur courte majorité à la Chambre basse. Les démocrates gardent la majorité au Sénat.
Le gouvernement américain pourrait imposer aux voyageurs en provenance de Chine de nouvelles restrictions liées au COVID-19 du fait d'inquiétudes sur le manque de données transparentes fournies par Pékin sur la résurgence de l'épidémie. Le Japon, l'Inde et la Malaisie ont annoncé cette semaine un renforcement des mesures sanitaires concernant les voyageurs en provenance de Chine, citant donc la flambée de contamination dans le pays. Tokyo, par exemple, a fait savoir qu'un test négatif serait désormais nécessaire. Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi un décret interdisant les exportations de pétrole russe à partir du 1er février 2023 vers les pays qui ont imposé un plafonnement tarifaire. Les pays du G7, l'Union européenne et l'Australie se sont entendus pour plafonner à $60 le prix du baril de pétrole russe maritime afin de réduire la capacité de la Russie à financer sa guerre en Ukraine. Et puis le secrétaire général de l'ONU a exigé mardi que le régime des talibans en Afghanistan abroge ses interdictions d'emploi et d'éducation qu'il a imposées aux femmes. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Timothée Donangmaï.
Alerte à la grippe aviaire au Niger. La souche hautement contagieuse H5N1 est apparue dans le sud du pays, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé animale, OSAH, basée à Paris. Le foyer situé dans le sud de la région d'Ottawa a tué la plupart des volailles d'un élevage de 4 920 têtes, les autres ayant été abattues. C'est la première apparition du virus au Niger depuis juillet 2021. Certaines parties de l'Afrique ont été touchées par une vague mondiale sans précédent d'infections par la grippe aviaire au cours de l'année écoulée, qui a entraîné la mort de plus de 100 millions d'oiseaux en Europe et ici aux États-Unis. Les entreprises allemandes s'intéressent à l'Afrique. Elles souhaitent l'année prochaine investir notamment dans des domaines tels que l'hydrogène vert et le gaz naturel liquéfié sur le continent. 43% d'entre elles prévoient d'augmenter leurs investissements sur le continent, selon une enquête menée auprès des membres de l'Association commerciale germano-africaine. La majorité des entreprises veulent développer leurs activités l'année prochaine, a déclaré à l'agence Reuters le directeur de l'association, Christophe Kanegisser. Les entreprises allemandes ont investi environ 1,6 milliard d'euros en Afrique en 2021. La plus grande économie d'Europe cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la Russie pour le gaz depuis le début de l'année. Le Sénégal, le Nigeria et la Mauritanie, ainsi que la Namibie, sont quelques pays pouvant bénéficier des investissements des compagnies allemandes.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Football, 17e journée du championnat d'Angleterre, victoire pour Chelsea et Manchester United.
Manchester United et Chelsea se sont imposés avec maîtrise contre les deux premiers, Nottingham Forest 3-0 et Bournemouth 2-0 mardi soir. La meilleure affaire au classement est réalisée par les Mancuniens, 5e à un point de Tottenham. Mais avec un match de plus à jouer, leur victoire est d'autant plus importante qu'elle intervient après une trêve internationale agitée, marquée par le départ acrimonieux de Cristiano Ronaldo et la mise en vente du club par la famille Glazer.
En France, le Paris Saint-Germain renoue avec la Ligue 1, avec Mbappé, Neymar, en attendant Messi.
Oui, le PSG débute la deuxième partie de sa saison contre Strasbourg ce soir à 19h, temps universel, avec deux de ses vedettes, Kylian Mbappé et Neymar, disponibles selon Christophe Galtier, mais sans la troisième, Lionel Messi, qui sera de retour le 2 ou 3 janvier, en tête avant la 16e journée de Ligue 1, avec 5 points d'avance sur son dauphin, Lens, et 10 sur Rennes, 3e. Paris a connu une première partie de saison idéale, au cours de laquelle il est resté invaincu et n'a concédé que 2 matchs nuls. Messi en Argentine pour célébrer son titre de champion du monde au moins jusqu'au 1er janvier ne devrait pas trop manquer aux Parisiens, d'autant qu'ils pourront compter sur Mbappé et Neymar disponibles pour le match de ce soir, a indiqué l'entraîneur parisien hier en conférence de presse d'avant-match.
L'attaquant néerlandais Cody Gakpo transféré à Liverpool.
Oui, le PSV Eindhoven annonce le transfert à Liverpool de sa pépite, l'attaquant néerlandais Cody Gakpo, qui s'est illustré lors du Mondial au Qatar. L'attaquant de 23 ans part immédiatement pour l'Angleterre, où il sera soumis aux formalités nécessaires pour la finalisation du transfert, a ajouté le club dans un communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été rendu public, mais c'est un transfert record pour le PSV, a précisé le directeur général du club néerlandais, Marcel Brands, cité dans le communiqué. Des médias avancent une somme de 50 millions d'euros. Gakpo, formé au PSV, a été la sensation au début du mondial au Qatar, avec 3 buts en 3 matchs. Il s'est distingué avec ses accélérations et sa réussite devant le but, avant l'élimination des Néerlandais en quart de finale face à l'Argentine au tir au but.
Page de sport VO Afrique signée Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Guillon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, l'année 2022 a été marquée par l'insécurité qui reste une préoccupation majeure des autorités fédérales. Dans ce reportage, notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, revient sur les événements qui ont marqué l'actualité durant l'année écoulée.
Des multiples menaces de sécurité ont persisté au cours de l'année 2022 au Nigeria, avec une augmentation globale de la violence dans tout le pays. La violence politique par les milices communales et ethniques ciblant les civils a constitué plus de 60% de leur activité. Kabiru Adamu est expert en sécurité.
Les youth, ils doivent utiliser des stratégies de risque de gestion et d'atténuation. Lorsque vous identifiez un risque, ce que vous devez faire, c'est de chercher à l'atténuer. Mais j'ai une préoccupation au niveau de leur coordination. Dans certains cas, ils identifient des risques, mais ils ne prennent pas les dispositions pour gérer ces risques.
La grève dans le secteur de l'éducation a aussi marqué les esprits au Nigeria en 2022. Le 14 février 2022, la puissante centrale syndicale des enseignants des universités publiques lance un mouvement de grève illimité, entraînant une suspension des activités académiques dans les universités fédérales et d'État à travers le pays pendant 9 mois. Réaction de Farouk Bibi Farouk, professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja.
The problem lies in one and one issue. Funding of public.
Le problème se situe à un seul niveau, le manque de financement des universités publiques. Et nous avons un gouvernement qui estime qu'il ne doit pas financer l'éducation publique. C'est cela le problème.
La nouvelle loi électorale de 2022, adoptée et signée par le président, a introduit de nombreux changements qui auront un impact considérable sur le processus électoral au Nigeria. Cette loi devrait grandement contribuer à réduire la manipulation du processus électoral ou le tricage des élections au Nigeria, selon les experts. Djegede Jeremia se félicite de la mise en place de la transmission des résultats par voie électronique.
Si les résultats des élections qui viennent directement des bureaux de vote sont transmis électroniquement au serveur de la CENI, je suis certain que cela va diminuer la manipulation des élections.
L'année 2022 qui se termine est considérée comme une année préparatoire pour les élections générales de 2023, avec notamment l'organisation des primaires des partis politiques pour la sélection des candidats. Yabagi Youssouf Sani est candidat de l'ADP à la présidentielle de 2023.
Il est urgent de sauver ce pays d'un effondrement imminent. Vous pouvez considérer cela de n'importe quelle perspective que vous voulez le faire. Le pays est presque à genoux. Un pays qui ne peut pas protéger et nourrir ses populations est un État failli.
Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Bénin, la revalorisation salariale est active. Le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord, même si les travailleurs attendent davantage de l'État en raison de la situation économique qui évolue de mal en pis. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Comme promis, le gouvernement s'est employé à définir et à stabiliser les options qu'il a présentées aux partenaires sociaux le mardi 6 décembre 2022 aux fins de recueillir leurs avis et suggestions. Cela se traduit par un relèvement indiciaire uniforme pour tous et des sursalaires différenciés, privilégiant ainsi les plus modestes, dira le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji.
Le conducteur de véhicules administratifs qui commence sa carrière connaîtra une hausse de 66% de son salaire. Selon qu'il est en début, milieu ou fin de carrière, l'agent d'entretien des services de santé connaîtra une revalorisation allant de 56 à 32% du revenu actuel net.
Pour Noël Chadaré de la COSI Bénin et Kassamampo de la CSTB, la revalorisation salariale était indispensable.
Revaloriser, c'est donner de la valeur à nouveau à quelque chose qui a perdu sa valeur. Et donc les salaires, s'entend. Nos salaires ont perdu leur valeur. valeur, c'est devenu des salaires. Des salaires. Et donc, il faut leur donner de la valeur pour que ça devienne des salaires.
Les travailleurs attendent impatiemment une revalorisation des salaires. Et du secteur public et du secteur privé pour que les gens puissent vivre de leur salaire. C'est pas un truc symbolique. Il faut trouver une forme pour permettre aux travailleurs qui gagnent, surtout aux gagnants petits, de sentir une revalorisation, de sentir un soulagement. Le panier de la ménagère est vide et moins on gagne, plus on souffre.
Les travailleurs indépendants se disent lésés par cette mesure qui ne prend en compte que les travailleurs des secteurs publics et privés.
Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire pour nous? Oui, les infrastructures, c'est-à-dire les voies, les choses là, oui. Mais il a compris aussi que même quand on fait les voies et que le Béninois ne mange pas, il ne peut pas ovationner. Je ne dirai pas ça. C'est quand je serai malade que je vais passer sur les voies. Il faut que je sois en bonne santé et que je mange bien. Le palier de la ménagère, qu'est-ce que ça en coûte? Le social dont le gouvernement a crié, lequel est revenu sur moi, ma corporation, les conducteurs de taxis. Parce que quand on fait une vue d'ensemble, quand tu prends cette vue d'ensemble, c'est-à-dire la photo qu'on fait ensemble, quand on prend, on regarde, on voit là où on est. Donc les hommes ne se sont pas encore retrouvés de trop.
Si les travailleurs du secteur public ont déjà vu sur leur salaire l'augmentation tant annoncée, ceux du privé restent encore dans l'attente. Beaucoup pensent que le gouvernement n'a aucun moyen de contrôler l'effectivité de cette mesure au niveau du privé.
Je crois qu'il faut proposer aux employeurs des solutions de facilité qui puissent leur permettre de voir par quel mécanisme ils vont augmenter les salaires. Si rien ne leur est proposé en retour, il leur sera difficile d'augmenter les salaires ex nihilo. Ça veut dire qu'ils augmentent les charges. Si en retour, ils ne peuvent pas avoir plus de revenus.
Je ne sais pas par quelle alchimie le gouvernement peut amener au moins la majorité des patrons à ne serait-ce qu'augmenter un tout petit peu. On ne dit pas de respecter les 52 000 forcément, mais de se rapprocher un peu de ce seuil, de ce montant pour que tout au moins les travailleurs du secteur privé aussi, puisqu'ils vont sur le même marché, en bénéficient également.
Également objet d'accord avec les syndicats ainsi que le patronat du secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG va passer à 52 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2023 contre 40 000 francs CFA actuellement, soit une hausse de 30 %. Le gouvernement exhorte les employeurs privés à se pencher favorablement sur la question de la revalorisation des salaires de leurs employés. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, un jeune entrepreneur a créé un système de paiement électronique qui fonctionne grâce à une application et une carte magnétique. Cette innovation permet aux gens de sécuriser leur argent et de donner un goût au paiement électronique dans un pays où la majorité des gens n'ont pas de compte en banque. Davantage avec Zanem Neti Zaidi.
Presque chaque jour, Faisal, jeune entrepreneur congolais, arpente les rues et le lieu public de Goma comme le marché, dans le but de sensibiliser les gens à adhérer à une technologie moins connue, mais qui est au cœur de son innovation. Ce jeune homme a créé Tap & Pay, un système de paiement électronique qui permet d'acheter et de vendre des produits, de déposer et de retirer de l'argent. Tout cela fonctionne grâce à une carte magnétique et une application mobile. L'initiateur pense que cela contribuera à l'amélioration du système de paiement électronique dans son pays.
On s'était rendu compte qu'en RDC, il y a l'insuffisance des services mobile banking. Donc là, nous voyons la pénétration des services mobile banking qui est actuellement à 6%, laissant plus de 60 millions de Congolais en dehors des circuits bancaires classiques. Et à part le mobile banking, nous avons le mobile money dans les zones enclavées qui sont actuellement à 32%. Et là, nous voyons 78% de manque de mobile money. Et nous, avec notre business model, on s'est dit de couvrir les gaps avec un système de paiement qui va s'adapter juste à la basse classe de la population.
À Goma, il compte déjà plus de 6 000 utilisateurs pour ce système de paiement, comme ici dans ce restaurant situé au centre-ville. Ses gérants s'est déjà fait voler une partie de sa recette alors qu'il voulait rentrer chez lui. Il affirme que cette innovation peut désormais lui permettre de sécuriser son argent.
Avantage à Tap & Pay.
Les grands avantages de Tap & Pay est la sécurité de l'argent. On ne peut plus se mettre en danger en ayant de l'argent en espèces dans nos poches. Depuis que je l'utilise, je sens que mon argent est en sécurité. C'est donc bénéfique pour nous, commerçants, et même pour les clients.
Parmi les utilisateurs, il y a aussi des motocyclistes qui ont pris goût à l'innovation. Ils peuvent acheter de l'essence dans les stations partenaires de Tap & Pay grâce à leur carte.
Cette application est nécessaire car je peux faire mes paiements sans trop de difficultés. C'est trop rapide. Je viens de payer quelques litres d'essence avec l'argent qui est dans ma carte.
Faisal compte offrir ce service au-delà des frontières congolaises et pourquoi pas sur tous les continents africains.
Dans les jours à venir, actuellement, nous sommes en train de finaliser avec les partenariats. Nous avons, là je vois Visa, au niveau international, avec plus de 30 pays qui seront déjà connectés dans notre corridor du système de paiement. Et à part Visa, nous avons MFS Africa. Avec MFS Africa, nous serons dans 34 pays de l'Afrique.
Cette application a été lancée en août dernier. Jusqu'ici, ce jeune homme travaille sans grand soutien des autorités, une situation que vivent de nombreux entrepreneurs en RDC. Zalem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La voie aérienne pourrait être bientôt une solution aux embouteillages monstres sur les autoroutes ici aux États-Unis. Une correspondance de Genia Dulot depuis Los Angeles sur des projets de mettre en service des taxis volants avant les Jeux Olympiques de 2028. Le récit avec Idriss Fall.
La traversée du désert est un essai pour une version grandeur nature d'un système de propulsion que la société OverAir de Californie du Sud prévoit d'utiliser pour des taxis volants électriques. Les ingénieurs de l'entreprise travaillent sur un eVTOL, c'est-à-dire un véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux doté de rotors de 6 mètres et des derniers développements en matière de moteurs électriques et de batteries pour aider à transporter les passagers au-dessus des routes bondées. John Crisis, chef des opérations de mobilité d'OverAir.
Cet avion, avec son rayon d'action de 222 km ou un peu plus, peut essentiellement desservir la grande région de Los Angeles. Il peut transporter des bagages et 5 passagers. Nous pensons que ce sera formidable pour les familles qui essaient d'attraper un vol long courrier. Cela va vraiment changer la façon dont les gens se déplacent en zone urbaine.
Les responsables de la ville soulignent que cette promesse de mobilité aérienne vient aussi avec de nombreuses questions non encore résolues sur l'infrastructure pour ces futurs taxis volants et la surveillance par la FAA, l'administration fédérale de l'aviation. Connie Yanos, du département des transports de LA.
De toute évidence, la FAA va avoir un rôle énorme à jouer et c'est elle qui réfléchit et envisage de fournir des autorisations pour ce processus dès 2025. Et puis au niveau local, nous avons vraiment des pouvoirs d'utilisation, des endroits où les gens peuvent décoller et atterrir. Et je pense que l'autre valeur ajoutée que les villes apportent est cette perspective très locale sur la façon dont cela va avoir un impact sur les gens.
Mais certains habitants de Los Angeles sont sceptiques. Guedilia Sorch, résidente de L.A.
Pensez à tous ces points d'atterrissage. Cela ressemble à un chaos qui va se produire. Vous aurez besoin de zones entières d'où les gens partent et atterrissent. Vous ne pourrez pas atterrir n'importe où. On a l'impression que l'on va s'écraser tout le temps.
L'entreprise allemande Volocopter a été la première à soulever une personne dans les airs en 2011 en utilisant uniquement l'énergie électrique. Aujourd'hui, Volocity, de la firme, est une aviation électrique biplacée dotée de 18 rotors. Christian Bao, directeur commercial de Volocopter.
Lorsque nous avons volé à Singapour, dans le centre-ville, j'espérais que beaucoup de gens, beaucoup de touristes applaudiraient et regarderaient le Volocopter. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Donc c'était mauvais pour le marketing, mais bon, pour les autorités, ils l'ont aimé. Donc il est très silencieux et vous ne le verrez pas. Ce serait même un petit point dans le ciel.
Volocopter a fait voler son Volocity au-dessus de Paris en novembre avec des plans pour de courts vols commerciaux d'ici les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les autorités de Los Angeles s'efforcent de mettre en place des taxis aériens d'ici aux Jeux Olympiques de 2028.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.